Vous écoutez
RMC.
Messieurs, nous allons parler de l'équipe de France, les Bleus qui préparent leur troisième match, et on va tout de suite retrouver Arthur Perrault. Bonsoir Arthur.
Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir à toutes et à tous.
Arthur, on va débuter évidemment avec une terrible nouvelle qui est tombée donc en début d'après-midi et qui concerne évidemment le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
Oui, puisque c'est un communiqué de presse envoyé à 15h31 précisément par la Fédération Française de Football avec comme titre, je vous le donne comme je l'ai reçu dans le groupe WhatsApp des suiveurs de l'équipe de France, Didier Deschamps endeuillé. Pour vous lire la principalité de ce communiqué de presse, voilà d'abord les premières lignes qui précisent que Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc de touche vendredi pour ce dernier match du groupe I. En effet, le sélectionneur national a eu la douleur d'apprendre ce matin le décès de sa maman. Il va donc rentrer en France pour assister à ses obsèques. Et en attendant, en accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son fidèle adjoint, Guy Stéphane, de diriger le groupe France d'ici à son retour. C'est d'ailleurs lui qui était présent cet après-midi à la Bentley University, non loin de Boston, pour diriger cette première séance d'entraînement en l'absence du sélectionneur des Bleus.
Nous présentons évidemment nos plus sincères condoléances à Didier Deschamps et à sa famille. Donc cette terrible nouvelle est tombée, Didier Deschamps est parti. Mais avant ça, il y avait eu un entraînement et il y avait eu également un discours de la part du sélectionneur.
Oui, puisqu'il a pris, selon nos informations, brièvement la parole devant son groupe, joueurs et staff confondus. C'était avant le déjeuner, aujourd'hui, au restaurant du camp de base des Bleus, en plein centre-ville de Boston. Un moment particulièrement émouvant, très touché. Les joueurs et les membres de l'encadrement qui avaient été avertis de la nouvelle dans la matinée ont accueilli cela avec beaucoup d'émotion. Plusieurs regards étaient humides, selon des témoins de cette scène. Au moment d'écouter leur sélectionneur, un homme unanimement apprécié et respecté au sein du groupe. Mais voilà, malgré cette douleur, Didier Deschamps a tenu à adresser un message fort à ses joueurs. Le sélectionneur leur a demandé, en substance, pour vous résumer sa prise de parole, de poursuivre sur la dynamique positive actuelle, de continuer à tout donner sur le terrain. Et après cette annonce, les internationaux ont longuement échangé entre eux, souvent en petits groupes ici ou là, toujours avec beaucoup de pudeur. Mais il y a quand même un sentiment qui semble se dégager clairement au sein du vestiaire après cette annonce. Les Bleus veulent désormais s'imposer vendredi, non seulement pour conserver leur dynamique de victoire, mais aussi et surtout pour leur entraîneur. Et d'ailleurs, toute cette émotion s'est ressentie au début de l'entraînement programmé ici cet après-midi, puisqu'il y a eu donc une longue minute de silence respectée par l'ensemble du groupe, que ce soit une nouvelle fois le staff, les joueurs, les salariés de la Fédération Française de Football qui étaient tous très touchés, très émus. Il y avait vraiment une ambiance très particulière et pour tout vous dire, y compris les journalistes, vous parler de ce groupe WhatsApp que l'on a, dans lequel on a appris cette nouvelle à 15h31. Derrière, il y a eu tous ces messages de toutes ces rédactions. Je peux vous les citer, M6, l'AFP, Bein Sport, Opta, Canal+, France 24, Ouest France, même des médias étrangers, et évidemment le groupe RMC BFM TV pour communiquer ces messages de doléances auprès du sélectionneur de l'équipe de France.
On va parler maintenant également du match amical qui a eu lieu et il y a des enseignements à tirer. On rappelle évidemment que les Bleus préparent ce match vendredi face à la Norvège avec l'objectif de terminer premier et donc après de jouer le 16e de finale à nouveau dans le New Jersey. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce match amical, mon cher Arthur ?
Oui, match amical une nouvelle fois, comme au lendemain du dernier match face au Sénégal. C'était face à l'équipe des jeunes de New England Revolution, l'équipe locale de Boston, avec d'abord à noter du côté des titulaires du match d'hier, Koundé, Upamecano, Digne, Dembélé, Olise et Barcola ont effectué un footing très léger avec le préparateur physique de l'équipe de France, Cyril Moine. La bonne nouvelle peut-être à retenir de cet entraînement, c'est que Aurélien Tchouaméni va mieux, lui qui avait été touché, victime d'une petite gêne physique ces dernières heures. Il a participé à ce match amical, résultat un but partout entre les deux équipes, avec des buts inscrits par Jean-Philippe Mateta d'un côté et par Marcus Thuram de l'autre. Mais surtout à retenir aussi, ce sont les deux très grosses prestations de Lucas Hernandez et de Désiré Doué, qui est apparu très en jambes sur son côté gauche et qui a sans doute marqué une nouvelle fois des points, cette fois-ci aux yeux de l'adjoint Guy Stéphane, qui était donc aux manettes de cette première séance d'entraînement. entraînement pour lui en l'absence du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
Et dernier petit point, Arthur, on connaît donc l'arbitre désigné pour ce troisième match.
Michael Oliver, c'est un arbitre que évidemment on connaît très très bien puisque il a l'habitude d'officier tout au long de la saison en Ligue des Champions. Et voilà, la communication est tombée aujourd'hui de la part de la FIFA. C'est donc lui qui sera au sifflet de cette rencontre vendredi, on le rappelle, entre la France et la Norvège pour donc l'issue de ce groupe.
Merci beaucoup Arthur, belle soirée à toi, belle nuit à toi. On va continuer de parler de l'équipe de France bien sûr avec Walid et Florent. Messieurs, faut-il préserver certains bleus contre la Norvège? On rappelle que pour l'instant tout va bien pour les bleus. Il y a évidemment ces 6 points de prix, il y a 6 buts marqués, il y a un Kylian Mbappé qui vole, mais il y a une place de premier à conserver alors que la Norvège également a gagné ses 2 premiers matchs. Donc comment faire pour ce troisième match? Très souvent le troisième match c'est le match des coiffeurs, même si on n'aime pas trop cette expression, là c'est pas le cas.
C'est clair. Moi, je pense que depuis le deuxième match, il faut de toute façon faire tourner. Alors, faire tourner, après, il y a une, dans l'idée de Deschamps, c'est toujours à portion, congrue. C'est-à-dire, là, 3, c'était déjà pas si mal, d'ailleurs, dans le deuxième match. Moi, je pense qu'il faut de toute façon faire tourner pour plein de raisons. La compétition est longue. Les joueurs ont besoin d'être challengés aussi sur certains postes. C'est aussi une occasion. Il faut pas seulement voir le côté premier et deuxième. Il faut aussi voir l'occasion de faire progresser ton équipe par rapport au reste de la compétition. Donc moi je suis pour du turnover pour plein de raisons. La première raison, je dis la même chose quelque part qu'avant le deuxième match, pour protéger tes joueurs qui sont peut-être un peu en difficulté physique. Je pense à Saliba par exemple, qu'on n'a pas du tout protégé, qui a joué les deux fois 90 minutes. D'ailleurs Deschamps en a parlé hier en disant qu'il y avait aussi Upamecano qui avait joué les deux fois 90 minutes. Donc je pense pas qu'il va changer toute sa charnière. Donc dans ce cas-là, bah Saliba, ça me paraît une bonne chose. On a beaucoup parlé de Koundé hier avec Walid. Effectivement, ce serait l'occasion, quelque part, sans le sanctionner parce que c'est un troisième match, de mettre une Malo Gusto sur le côté. Et comme ça, bah si Malo Gusto est bon, ça fait des maux de tête pour Deschamps, mais peu importe, au moins on verrait quelque chose de différent. Il me semble quand même que vu le match de Koné la dernière fois, là pour le coup tu dois continuer avec Koné. Donc si tu continues avec Koné, bah ça veut dire que si Tchouaméni est apte, peut-être que tu dois à nouveau te passer de Tchouaméni, ou alors pourquoi pas te passer de Rabiot. En tout cas, moi je pense qu'effectivement à plusieurs postes et pour plusieurs raisons, il faut continuer à faire du turnover. Il y a du turnover moins compliqué, c'est devant, notamment côté gauche par exemple, entre Barcola et Doué. On a vu que l'un ou l'autre qui commence ou qui termine, ça change pas grand chose selon leur état de forme. Barcola était bien entré, il a commencé. On entend Arthur Perrault qui nous dit que Doué a fait un gros entraînement, il pourrait très bien commencer. Là, ce sera plutôt de la répartition de temps de jeu. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, il faut effectivement faire tourner.
Qu'est-ce qu'on fait, Walid? Parce que c'est vrai que dans l'enchaînement des matchs, malheureusement, entre guillemets, pour les Bleus, le match le plus facile, c'était l'Irak. Mais c'était le deuxième match. Là, il y a un gros match face à la Norvège.
Je suis d'accord avec Flo. Moi, il faut ouvrir le frigo. Il faut l'ouvrir.
Mais dans quelle proportion?
Petite proportion, mais proportion cohérente par rapport à la suite de la compétition. Flo vient de le dire, mais Saliba et Koundé, pour des raisons différentes, doivent rentrer dans ce frigo-là.
Donc, qui en défense centrale?
Lacroix. Moi, je vois Lacroix ou Upamecano. Upamecano me donne pas des signaux de fatigue. En plus, Upamecano connaît très très bien Haaland comme Saliba, mais Saliba a besoin de véritablement se reposer. Il y a une question sur Olise ou Mbappé. Un des deux doit aller dans le frigo aussi. Vous choisissez.
Ah oui.
Ah oui, vous choisissez.
Mais moi, on sait déjà que ça sera pas Mbappé.
Olise pour mettre Cherki.
Ah voilà. Mais moi, il y a un des deux. Après, le problème c'est que Cherki, ça a rentré. On en a parlé hier. Ne mérite pas d'une titularisation, mais pourquoi pas, moi je sais pas faire,
parce que si tu relances
Cherki,
l'histoire d'Embélé, c'est parce que tu sois réalisé, oui. Tu te remets un peu les doigts dans la prise.
En tout cas, il y a le duo, il y a le match dans le match, Haaland et Mbappé, donc on sait qu'Mbappé va démarrer et que Mbappé se sent frais, prêt, donc pour jouer. Mais en tout cas, il y a un des deux qui, parce que je sais pas si t'as le délai précis, Flo, entre le troisième match et le 16e de finale et le 8e de finale.
Ça dépend de leur position.
Oui,
ça dépend.
Oui, bien évidemment, mais globalement,
là, ça va s'enchaîner maintenant.
Ça s'enchaîne. Là, tu joues le 26.
Ouais.
Tu joues le 26. Tu joues le 30 après, enfin, potentiellement le 30.
Le 30 et après, le 5. Après le 5. Donc, en fait, en 10 jours, t'auras 3 matchs. Mm. Et là, c'est plus la même chose. Mm. Là, c'est-à-dire que là, ce qu'on a expliqué, oui, la Coupe du Monde, elle est longue, etc. Là, il y a un moment, il y a une gestion des minutes qu'on doit avoir. Et là, après, c'est les professionnels. Là, après, c'est la compétence de Didier Deschamps et de son staff. Moi, je peux pas être à la place. Je suis pas dans les petits secrets des joueurs un peu blessés. Moi, vu de mon balcon, je vois un Saliba qui doit être reposé. Je pense qu'un Olise aussi, parce qu'en fait, sur la nature d'importance sur la suite de la compétition, Olise doit peut-être être un peu ménagé. Parce que j'ai pas envie qu'à dans les duels norvégiens on ait un pépin physique. Après tu me diras, quoi qu'il arrive, tu peux l'avoir en 16e aussi, mais c'est pas un... En fait, moi, qu'on soit premier ou deuxième,
c'est ça que j'allais dire,
ça ne m'importe pas.
Je vais même te dire mieux. Je vais même te dire,
j'ai regardé le tableau, en fait il y a pas une immense différence.
En fait il y a une vraie différence sur un seul point qui n'est pas sportif, c'est l'histoire de la côte est et de la localisation des matchs.
Donc la logistique est quand même très importante aux yeux des gens.
National géographique,
ce que je veux te dire par là, c'est que je pense comme Walid. Je pense que comme sportivement, tu ne sais pas si c'est vraiment mieux d'être premier ou deuxième. Ça justifie encore plus, ça donne un argument de plus à notre idée de rotation. Voilà, ça c'est le premier point. Après, la seule raison pour laquelle les Bleus communiquaient au début en disant être premier, évidemment, parce qu'on veut gagner tous les matchs, on va être premier, etc., etc., et souvent c'est un avantage d'être premier, on le disait, c'est qu'en plus, c'est un argument supplémentaire, tu restais quasiment tout le temps, sauf un match, Boston, Philadelphie,
New York. Oui, tout sur la côte Est est vraiment proche.
Maintenant, je pense pas que tu puisses être le premier argument. Tu peux pas dire on va être premier parce qu'on va rester côte Est. Je pense qu'effectivement, c'est un argument supplémentaire. T'es premier ou t'es deuxième, sportivement, ça change pas grand chose. Donc, dans ce cas-là, c'est pas que tu veux perdre le match. Mais en tout cas, n'hésite pas à changer, même si t'as des certitudes, pour impliquer les joueurs, pour en reposer certains. Parce qu'effectivement, ça va changer les choses. Maintenant, j'ai pas la sensation que, je sais pas, je me trompe peut-être, effectivement, vu la rentrée de Cherki, j'ai pas la sensation qu'il va vouloir sortir Olise. Tu vois, c'est du temps de jeu.
Mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Sur l'importance de la première place ou non par rapport aux précédentes compétitions. J'ai regardé tout à l'heure avec Jimmy, c'est Côte d'Ivoire ou de l'autre côté la Suède, après c'est Pays-Bas ou Allemagne, c'est Brésil, ou en fait en demi-finale c'est Argentine ou Espagne. En vérité, bon, la France peut impacter toutes les équipes et elle peut se faire surprendre aussi sur ces équipes là
donc on peut considérer en dehors de l'Allemagne en 8e dans le schéma première place. C'est peut-être un peu plus simple. Je parle jusqu'au quart, hein. Ouais. Avec la première place, quand même.
Voilà. Mais c'est à la marge. Parce que moi,
à la marge.
Côte d'Ivoire en 16e de finale.
Ouais, mais c'est plus dur pour moi que la Suède. Non?
Bah oui. Ouais. Oui, mais Côte d'Ivoire, si tu termines premier.
Non, deuxième.
Deuxième.
Ouais.
D'accord.
Ouais, okay. Donc, il faut quand même terminer premier.
Oui.
En gros, si tu termines premier, Suède en 16e, Allemagne en 8e. C'est ça le vrai.
Premier.
Mais attendez, moi, il y a un joueur dont vous n'avez pas parlé, mais qu'est-ce qu'on fait de Dembélé? Est-ce qu'il débute ou est-ce qu'il doit se reposer?
Dembélé doit démarrer.
Mais Dembélé, il n'a pas une saison top au niveau des blessures. Oui,
mais
justement.
Lui aussi peut intégrer le frigo. Moi, je ne suis pas fermé à ça parce que je n'ai pas terminé mon argumentaire. C'est que premier ou deuxième, je viens d'en parler, pas énorme différence. En fait, t'as pas la grosse équipe tout de suite en huitième. Tu joues pas l'Espagne en huitième, quoi. T'évites pas l'Espagne. Et la deuxième des choses, c'est qu'en fait, il y a eu un match contre la Colombie aux États-Unis où il y a eu une équipe B.
On l'a vu.
C'est totalement remanié. Où moi j'avais trouvé l'équipe de France vraiment rayonnante, très forte. Et moi,
un peu comme l'équipe B qui avait joué contre du PSG contre le Barça en poule.
Oui, à peu près, oui. Oui, même si c'était un peu moins une équipe B, on trouve. Mais, pour revenir sur ce que je disais, c'est que si tu as cette équipe-là, même avec une équipe remaniée où tu ouvres le frigo et le congélo, contre la Norvège, j'ai l'intime conviction que tu peux faire un nul. Parce qu'un nul te donne la première place. Hein.
T'as un autre truc, Walid, pour aller dans ton sens. Le fameux réservoir dont on nous rebat les oreilles pour dire qu'on a un banc de fou, tu sais, on dit oh là là, t'en sors deux, et c'est vrai, devant tu fais rentrer Cherki et Doué, c'est énorme. Si t'as un réservoir de fou, t'as pas peur, tu peux y aller.
Mais demain là, si tu fais Doué, Cherki, Akliouche, Marcus Thuram, c'est l'équipe qui a joué contre la Colombie, tu mets au milieu de terrain Zaïre Emery, Kanté. Oui, mais enfin, si tu mets Zaïre Emery, Kanté, c'est-à-dire qu'il y a un moment, Lacroix ou Upamecano, Malo Gusto et Lucadine, t'as pas un delta énorme. Je te dis pas qu'il faut ouvrir le frigo de manière aussi exagérée, mais moi je pense que contre la Norvège, tu peux aller chercher un nul. Et en plus la Norvège, attention Karine, ils ont envoyé un signal avec Erling Haaland. Alors est-ce que c'est du bluff, etc. Il lui a dit, il en a rien à faire, lui
le troisième match, il dit la France va aller très loin.
Parce qu'il faudra aussi voir ce que va faire la Norvège.
Il faudra voir. Parce mais Norvège, je suis persuadé qu'Haaland sera titulaire.
Oui, mais la Norvège sur la rotation, ils ont aussi un 16e de finale qui pour eux va être très important et qui va conditionner leur compétition, Karine.